Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous. Mondial Sport, seconde période du week-end. Dernier tour de piste à Doha. D'abord pour la clôture des championnats du monde d'athlétisme. Cette finale pour terminer en beauté cette édition 2019 d'un bon cru pour l'Afrique, mais qui ne restera vraiment pas dans les mémoires côté français. Deux médailles, aucun titre. C'est bien maigre et c'est inquiétant dans la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo. Bilan à chaud avec Christophe Jousset. Le football, gros plan ce soir sur la Serie A italienne et son duel au sommet Inter Milan Juventus-Turin. Cap ensuite sur le Cameroun où la réussite des Lions table sur la scène internationale a des effets positifs sur la popularité et le développement de la pratique. C'est fait, mais ce n'est toujours pas très probant. Le 15 de France assure sa place en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby en battant les Tonga, mais sans rassurer sur son niveau réel avant que les choses se compliquent. Enfin, la NBA tente de se faire une place en Inde. Deux matchs de pré-saison inédits dans le pays ont donné l'occasion à la Ligue nord-américaine de se faire connaître sur un énorme marché, mais bien difficile à conquérir. Pour la dernière fois, tournons-nous donc vers le Khalifa Stadium de Doha où viennent de s'achever les championnats du monde d'athlétisme. Cette dernière finale ce dimanche pour boucler le palmarès de cette 17e édition, palmarès sur lequel on va s'attarder avec l'un de nos envoyés spéciaux, Christophe Jousset. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Cette dernière journée a permis aux États-Unis de parachever leur nouvelle victoire au tableau des médailles.
Oui, parce que les Américains ont gagné les deux relais 4 x 400 mètres chez les hommes comme chez les femmes et ils terminent avec 29 médailles en tout, dont 14 en or. Les Américains, au cours de cette dizaine de jours de compétition, ont notamment confirmé qu'ils reprenaient le pouvoir sur le sprint mondial, en tout cas chez les hommes. Sur 100 mètres, on a vu le sacre de Christian Coleman, son premier. Sur 200 mètres, le premier sacre de Noah Lyles. Je dis le premier parce qu'on a l'impression qu'il y en aura d'autres. Et également le titre sur le 4 x 100 mètres avec les deux ensemble, Coleman et Lyles, et également Justin Gatlin, le relais américain qui a d'ailleurs touché l'or mondial pour la première fois depuis 12 ans. L'ère Usain Bolt est bel et bien terminée, mais la Jamaïque est encore là, sur la troisième marche du podium, avec le retour de Shelly-Ann Fraser qui l'a bien sûr aidé. L'incroyable collection de la Jamaïcaine s'est encore enrichie de deux nouvelles médailles d'or sur 100 mètres et 4 x 100 mètres. Elle a pu cette fois Fraser fêter ses médailles avec le petit Zion dans les bras, son fils qui est né il y a 2 ans. Alors à propos d'individualité, on sortira aussi Dinah Asher-Smith, la nouvelle star du sprint britannique. Asher-Smith qui a gagné 3 médailles, une sur 100, une sur 4 x 100 et la médaille d'or du 200 mètres. Et puis il y a évidemment Sifan Hassan, vous en avez entendu parler, Sifan Hassan qui a réussi le doublé du grand écart, titré sur 1500 et sur 10 000 mètres du jamais vu, nulle part, avec un soupçon de soupçon, bien sûr, puisque la néerlandaise fait partie du Nike Oregon Project, le groupe dont l'entraîneur en chef Alberto Salazar a été suspendu pour 4 ans par l'agence antidopage américaine. L'exclusion de Salazar, Christophe, de ces mondiaux a d'ailleurs jeté le doute sur ses athlètes et aura bien sûr marqué ces 10 jours de compétition.
Les États-Unis en tête du classement des médailles, la Jamaïque 3e, on l'a dit tout à l'heure, et sur la deuxième marche, Christophe, le Kenya.
Oui, c'est la 7e édition consécutive que le Kenya est sur le podium des nations. 11 médailles en tout, dont 5 en or, 2 en argent et 4 en bronze. C'est exactement la même répartition qu'il y a 2 ans à Londres. Les Kenyans ont notamment gagné les 2 marathons, les 2 5000, les 2 steeples, chez les hommes comme chez les femmes. Et le dernier titre a été apporté aujourd'hui par Timothy Cheruiyot, vainqueur du 1500 mètres. Il est parti devant dès le début de la course avec son compatriote Quemoy qui n'a pas tenu la distance. Cheruiyot, lui, a tenu et sur la ligne avec un chrono de 3 minutes 29 secondes. Il devance de 2 secondes Taufik Makhloufi, une avance confortable. Makhloufi acclamé par plusieurs dizaines de supporters algériens massés dans un virage. Sur cette distance, il avait déjà gagné 2 médailles aux Jeux Olympiques, dont la médaille d'or en 2012. Il était absent des derniers mondiaux et vous allez l'entendre au micro d'Antoine Grenier. Taufik Makhloufi est très heureux de cette deuxième place et il en profite pour rendre hommage à son entraîneur, le Français Philippe Dupont, qui s'occupe de lui depuis 2015.
Ah oui, je suis très très content parce que je viens de loin, vraiment de loin. Par contre, avec l'expérience que j'ai, en plus je suis avec le meilleur entraîneur au monde, Philippe Dupont. Bon, au dernier moment, elle m'a dit, je pense que cette course elle va être très rapide. Il faut être prêt à tout. Allez, bon courage, c'est ça qu'est-ce qu'elle m'a dit. Et c'est vrai. Et elle m'a dit aussi, il ne faut pas être loin de... Il faut toujours être au, la tête, il ne faut pas être loin de la tête. Et aussi, il m'a dit, encore la course sera rapide. Il ne faut pas aller brusquement. derrière eux, essayer de faire des changements tranquilles pour avoir pas fatigue à la fin. Comme ça, le moment d'attaque de proche, c'est pas de loin. Et j'aime bien dédier cette médaille pour le peuple algérien. Et après, comme on dit, il mektoub, chacun son mektoub. La chance ou le mektoub, c'est ça.
Taoufik Maklofi, vice-champion du monde du 1500 mètres. Alors, on revient juste à l'instant sur les Kenyans, Christophe, pour dire que n'ont pas tous réussi. Hein. Aujourd'hui, il y en a un qui était particulièrement déçu, c'était Julius Yego. Vous vous souvenez de ce lanceur de javelot qui était allé chercher le titre de champion du monde à Pékin en 2015, vice-champion olympique aussi en 2016. Depuis, ça ne va plus trop. Aujourd'hui, il a fait 3G non mesurés, le dernier carrément hors secteur. C'est un zéro donc pour Julius Yego. Et écouter son sentiment toujours au micro d'Antoine Grenier.
Très déçu, rien n'a marché pour moi ce soir. J'ai fait de très bons lancers qui sont allés très loin, mais je ne sais pas, ça n'a pas marché. J'ai vraiment bien lancé, mais ça partait au-delà de la ligne. Mais bon, c'est la compétition. Pourtant, j'ai changé de technique après le premier lancer. Le javelot est tombé dans les limites. Mais là, je crois que c'est moi qui a dépassé la ligne avec mon pied. Et sur le dernier, c'est allé à l'extérieur. Je n'ai pas eu de chance. Mais je ne peux pas être en colère, je ne peux rien y faire. J'ai participé à une finale mondiale et j'ai échoué, mais c'est la vie, ça fait partie du sport.
Yeah, so I just take it the way it is. It's part of life and it's part of sports.
Julius Yego, le lanceur de javelot du Kenya, meilleure nation africaine. Donc, la deuxième, c'est l'Éthiopie.
Oui, l'Éthiopie qui a réalisé un doublé sur le marathon masculin la nuit dernière. L'Elissa Desissa s'est imposée en 2h10, ce qui est un super chrono, vu les conditions. L'Éthiopie, deuxième nation africaine, cinquième au tableau des médailles. Elle a pris une médaille d'argent sur le 10 000 mètres masculin aujourd'hui. Yomif Kejelcha, juste derrière Joshua Cheptegei, l'Ougandais, qui s'impose donc sur le 10 000. Et l'Ouganda d'ailleurs a réussi aussi de beaux championnats du monde après le titre de Halima Nakai sur le 800 mètres féminin.
Sur ce tableau des médailles, on voit en bas 5 pays qui sont présents par la grâce d'une médaille de bronze et il y a parmi eux le Nigeria.
Oui, la médaille de bronze nigériane est tombée aujourd'hui au saut en longueur féminin. Eze Brum a longtemps mené le concours. Elle menait avec 6,91 m et puis Malaika Miambo, une Allemande dont le père est né à Zanzibar. Malaika Miambo a planté un 7,30 m à son troisième saut qui a réglé l'affaire. En tout cas, médaille de bronze pour Eze Brum, 23 ans, ravie, elle qui était déjà finaliste aux derniers Jeux Olympiques, ravie de cette grande première pour elle, une médaille.
Je suis tellement heureuse. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. Sérieusement, je suis allée très progressivement dans ce concours. C'était ce que j'avais prévu. Et même si je n'ai pas réussi à dépasser les 6,91 m de mon deuxième saut, je suis heureuse. J'étais un peu nerveuse parce que je n'avais pas eu de concours aussi relevé cette saison. Mais je suis heureuse et reconnaissante. J'espérais améliorer ma meilleure performance. C'était le plus important. Je n'y suis pas parvenue, mais au moins je suis sur le podium et je suis heureuse. Pour mon entraîneur, ma famille, mon équipe, mon pays, je suis super contente.
Voilà la médaille de bronze du Nigeria avec Eze Brum. Les autres médailles de bronze, eh bien, c'est celle du Burkina Faso pour Hugues Fabrice Zango au triple saut, bien sûr, avec son 17,66 m, nouveau record d'Afrique, médaille historique pour le Burkina Faso dans des championnats du monde d'athlétisme et dans des Jeux Olympiques, bien évidemment. L'Afrique de l'Ouest bronzée aussi grâce à Marie-Josée Talou sur le 100 mètres. Le Maroc avec Sofiane El Bakkali sur le 3000 mètres steeple. Namibie qui a gagné une médaille de bronze sur le marathon féminin. Et puis on va dire un mot quand même, Christophe, de l'Afrique du Sud qui repart bredouille de Doha sans Wade Van Niekerk ni Caster Semenya. Les Sud-Africains étaient évidemment beaucoup trop diminués. À noter quand même le relais 4x100 mètres qui, avec Magakwe, Muniai et Simbine, a battu le vieux record d'Afrique détenu depuis 1997 par le Nigeria. C'est l'un des deux records d'Afrique qui sont tombés ici à Doha.
On en vient au bilan français, Christophe. Deux médailles, deux petites médailles, c'est la maigre récolte de l'équipe de France d'athlétisme au championnat du monde. Des Bleus qui n'ont pas été bons dans l'ensemble et à 10 mois des Jeux Olympiques de Tokyo, eh bien, ils n'échapperont pas à une autocritique.
Oui, c'est vrai que Quentin Bigot, médaillé d'argent au lancer de marteau, c'est bien. Quand Pascal Martineau Lagarde, médaillé de bronze sur le 110 mètres haies, c'est très bien aussi. Mais c'est dans l'ensemble que le bilan n'est pas brillant parce que, vous savez, pour évaluer la place d'une nation, il faut se pencher sur le nombre nombre d'athlètes finalistes, c'est-à-dire qui sont classés dans les 8 meilleurs de leur discipline. Et là, c'est le pire bilan français depuis les premiers championnats du monde en 1983. Alors, on a vu la faillite des cadors de l'athlétisme français, Kevin Mayer vaincu par ses blessures, mais aussi Diniz, Vico, Boss, Lavillenie, Robert Michon, tout ça, ce sont des déceptions. Le bâton qui tombe au relais 4x100 mètres, on s'arrête là. Et puis en coulisses, il y a eu d'autres contrariétés. Mourad Hamdouni qui a renoncé au marathon une semaine avant les mondiaux et qui a été mis en cause par la chaîne allemande ARD pour dopage. Il y a eu aussi l'épisode de l'hypnotiseur introduit par un athlète dans l'hôtel des Bleus pour une séance collective de relaxation. Bon, rien de très grave, sauf que l'encadrement n'était pas du tout au courant. Bref, ça fait un peu désordre. Et aujourd'hui, à l'heure de tirer le bilan, eh bien, le directeur technique national, Patrice Gergès, promettait de tirer les enseignements de cette dizaine pas réussie pour les Bleus.
Ah, ça a été une dizaine de jours qui était très compliqué à aborder. Avec des athlètes qui étaient venus avec de l'envie, mais on a vu la confrontation avec un niveau peut-être un des plus élevés de l'histoire des championnats du monde. Donc c'est vrai qu'on se retrouve nous dans une situation un peu basse ou stable, puisque quand on regarde les performances des uns et des autres, c'est moyen. Nos meilleurs sont pas là. Donc du coup, ça fait un trou, et un trou avec une génération qui est pas encore prête à affronter ça.
Patrice Gergès, le directeur technique national de l'athlétisme français. Le temps presse effectivement à 10 mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Les voyants sont effectivement au rouge. Christophe, un petit mot sur ce qui a fait bien parler sur ces championnats. L'ambiance qui a quand même fini par s'améliorer au Khalifa Stadium.
Oui, il fallait, parce que au début, c'était vraiment très triste dans ce Khalifa Stadium qui était aux trois quarts vide pour les finale du 100 mètres notamment. Il y a eu un frémissement jeudi soir, plus de monde au stade et vendredi, là, ça a vraiment été la grande soirée et pour cause, il y avait Moutaz Barchim qui est la star de l'athlétisme qatarien et qui a été vraiment au rendez-vous. Il a remporté l'or au saut en hauteur avec un bond à 2,37 m. Donc il y a eu du très mauvais et puis du bien meilleur dans ce stade. Hors stade, évidemment, il y a eu le gros problème de la météo, des conditions de forte chaleur et surtout de forte humidité qui ont limité les performances des coureurs. Mais ces conditions que l'on retrouvera aux Jeux Olympiques de Tokyo, elles ont existé à l'extérieur, à l'intérieur, dans ce stade climatisé. On a eu droit, dans l'ensemble, à de très, très grandes performances.
Merci beaucoup, Christophe Jousset, de nous avoir fait vivre ces mondiaux de Doha pendant 10 jours en compagnie d'Antoine Grenier pour les interviews. Prochains mondiaux dans 2 ans à Eugene, aux États-Unis. La séquence foot européen, à présent, elle nous emmène d'abord de l'autre côté des Alpes pour le choc du week-end en Serie A entre l'Inter Milan et la Juventus Turin. Duel au sommet, suivi attentivement par Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir Christophe.
Et c'est la Juve qui a fait respecter son statut finalement en s'imposant sur la pelouse de l'Inter 2-1.
Oui, en effet, ça a été un derby d'Italie qui a maintenu toutes ses promesses. La Juve a donc reconquis le sommet du classement en s'imposant 2-1 à San Siro. Après un défi passionnant, joué à grand rythme et quand même très équilibré. L'Inter a perdu, mais n'a pas grand-chose à se reprocher. La Juve, de sa part, a délivré une prestation quasi parfaite et remercie surtout ses deux attaquants qui ont vu de chaque match, chaque dimanche ou samedi, se dispute une place de titulaire aux côtés de Cristiano Ronaldo. On parle donc de Paul Dybala qui a ouvert le score avec une magnifique frappe du gauche, mais aussi de Gonzalo Higuaín qui, sur le score de 1 partout, a trouvé avec son prêt pied droit cette fois-ci la voie défilée à 10 minutes de la fin. Forcing final de l'Inter, mais rien à faire. Au triple sifflet final, la Juve épuisé à lever les bras au ciel en signe de victoire, même si ce soir l'équipe de Maurizio Sarri a compris et réalisé que pour conquérir le 9e Scudetto d'affilée, elle devra passer sur le corps de l'Inter.
Derrière la Juve et l'Inter, Matteo, c'est l'Atalanta Bergane qui complète le podium en battant Lecce 3-1. Naples, 4e, s'est contenté d'un nul, 0-0 au Torino. Et puis dans la seconde partie de tableau, on retrouve le Milan AC qui s'offre un petit peu de répit après une très mauvaise passe en allant battre le Genoa 2-1 et au grand soulagement de son entraîneur menacé Marco Giampaolo.
Oui, le technicien des Rossoneri Marco Giampaolo face à Genoa hier soir a raté tous ses choix en début de match, mais ensuite il a su réparer ses erreurs. Mené donc au score 1-0 dans les premiers 45 minutes de la rencontre, le technicien a changé son effectif en deuxième mi-temps et jeté dans la mêlée le Portugais Leao et le Brésilien Paqueta. Le jeu de Milanais à ce moment a commencé à avoir un sens et l'équipe s'est montrée plus efficace et agressive. Le Français Théo Hernandez a égalisé à la 50e minute, tandis que Franck Kessier, quelques instants plus tard, a réalisé le pénalty du 2-1, qui est le score final, même s'il y a eu du suspense jusqu'à la toute dernière seconde, lorsque l'arbitre a sifflé un autre pénalty, cette fois-ci contre le Rossoneri, qui s'en sont sortis grâce au gardien Pepe Reina, qui a repoussé la frappe du Danois Lasse Schön. Giampaolo donc à la fin a fêté une victoire qui lui permet de préserver son poste d'entraîneur pour l'instant, car son futur à Milan reste encore très très incertain et selon des rumeurs, en ce moment même, les dirigeants de l'AS Milan seraient en train de décider si continuer la saison avec lui ou sans lui.
Matteo, un petit mot maintenant de l'autre actualité de la semaine hors stade. Ça nous ramène au mal récurrent du racisme dans les stades italiens. Pas de nouvelles mesures choc, mais la fédération a décidé de faire évoluer la responsabilité des clubs en la matière.
En effet, la Fédération italienne de football a approuvé une norme qui prévoit qu'en cas d'acte violent ou raciste dans un stade de la part d'un supporter, les clubs de foot sont soulevés de toute responsabilité objective. Cela veut dire qu'ils ne devront plus payer d'amende ou par exemple devoir jouer à huis clos. Mais en échange, ils devront assurer d'avoir tout fait pour éviter ces gestes offensifs et devront aussi coopérer avec la justice pour dévoiler l'identité du coupable qui sera le seul à répondre de son comportement. En bref, pas de sanctions pour encourager les clubs à combattre vraiment les violents et les racistes.
Merci beaucoup Matteo Cioffi en ligne de Milan. Un petit coup d'œil sur les autres championnats. D'abord ce nouveau coup de tonnerre en première ligue, la défaite à domicile de Manchester City face à Wolverhampton 2-0, un succès qui fait les bonnes affaires de Liverpool, désormais crédité de 8 points d'avance en tête devant les Citizens. La suite et la fin de la 8e journée de Liga, l'Atlético de Madrid n'a pu faire mieux que 0-0 à Valladolid. Le Barça lui a cartonné face au FC Séville 4-0 et devient le dauphin des Merengues. Et puis la grande affiche de ce week-end en Ligue 1, c'était le derby entre Saint-Etienne et Lyon, toujours électrique. Finalement, ça manquait un petit peu de jus, mais les Verts, désormais entraînés par Claude Puel, l'ont emporté en fin de match 1-0, dépassé par les Stéphanois au classement. Les Lyonnais sont dans une situation critique. Ils sont 14e avec le même nombre de points que le premier relégable. Le football en Afrique à présent, avec vous Eric Chorin, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Et cette question, comment se porte le foot féminin au Cameroun, quelques mois après le beau parcours des Camerounaises lors de la Coupe du Monde en France?
Mieux que l'Olympique Lyonnais en tout cas. Avant, il y avait les Lions, Christophe, et seulement les Lions dans le cœur des supporters camerounais. Aujourd'hui, il y a aussi les Lyonnes, tout aussi indomptables, comme elles l'ont démontré lors du Mondial, avec leur refus de reprendre le match face aux Anglaises après l'arbitrage de la VAR. Et puis, le magnifique but, bien sûr, d'Adjaran Chout contre la Nouvelle-Zélande, une équipe nationale qui est désormais l'une des meilleures du continent, un statut confirmé jeudi dernier en battant la RDC 2-0 dans la campagne de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais qu'est-ce qui fait la force du foot féminin au Cameroun? État des lieux avec ce reportage de Joël Wadem.
Le football féminin au Cameroun passionne autant que la discipline masculine. À l'occasion du match Cameroun-RDC jeudi dernier, ce sont plus de 25 000 fans qui se sont mobilisés au stade Omnisports de Yaoundé pour porter les Lions indomptables à la victoire. Il faut dire qu'après avoir atteint le cap des huitièmes de finale aux deux dernières Coupes du Monde, l'équipe de football féminin occupe désormais une très grande place dans le cœur des Camerounais. Céline Eko, la présidente de la Ligue de football féminin, déroule le carnet de santé de cette discipline.
Le football féminin se porte très très bien au Cameroun en ce moment. Le Cameroun a organisé la CAN féminine 2016 et aujourd'hui je crois que le Cameroun est au numéro 1 en termes de spectateurs au stade parce qu'on a pu réunir 75 000 spectateurs en 3 matchs d'affilée. Donc ça veut dire que le football féminin a bien pris son envol au Cameroun. Nous avons un championnat de première division, un championnat de deuxième division et nous avons la Coupe du Cameroun féminine, nous avons le tournoi de la femme et cette année pour une expérimentation, nous allons mettre sur pied le tournoi de la jeune fille.
Le travail de la Ligue de football féminin est apprécié par des joueuses professionnelles. C'est le cas de l'attaquante Chout Njoya Adjara qui évolue en Norvège.
Je vois qu'il y a un peu de progression, mais actuellement, il faut qu'on relance le championnat parce que c'est quand les filles sont en compétition qu'on essaye un peu de juger les compétences des filles. Madame Céline Kouh, elle a promis les salaires, donc prochainement, les filles auront les salaires. Donc ça serait la première des choses. Dans le football féminin, on espère que ça va bien se passer.
Si le football féminin a pu décoller au Cameroun, c'est d'abord et avant tout grâce à la détection et à la formation. Karl Enongachu, ancien entraîneur de Lions Indomptables, est aujourd'hui directeur général de l'Académie nationale de football. À ce poste, il continue d'œuvrer à la progression de la discipline.
Nous avons commencé avec les filles de 11-12 ans dans l'académie. Nous avons sillonné la République. Dans les pôles, elles sont près de 60 qui travaillent à l'heure actuelle. Mais l'élite de 2000 jeunes filles de 12 ans qui sont venues faire les tests, nous avons retenu en tout et pour tout 20 joueuses. Nous sommes en train de travailler. On doit être patient. Nous allons attendre les résultats d'ici 6-7 ans.
Des joueuses professionnelles, à l'instar de l'attaquante Gaëlle Nganamout, ballon d'or africain en 2015, se sont également lancées dans la formation et l'encadrement des jeunes filles à Yaoundé. Cette activité est faite à travers la fondation de l'Enfant du Rail.
L'idée m'est venue du fait que j'ai eu un début dans le foot très difficile parce que la formation n'a pas été correcte. J'ai toujours joué avec des garçons et ça n'a pas été facile. Nous savons qu'en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, nous n'avons pas de centre de formation des filles. Ce qui fait que les filles sont toujours en train de travailler avec les garçons. Nous comprenons qu'il n'y avait pas de moyens et aujourd'hui, la fondation L'Enfant des Rails est là pour ce développement, pour aider ces jeunes filles à avoir une carrière bonne demain.
Le football féminin camerounais a encore de beaux jours devant lui. Mais pour continuer de briller, il a besoin, au-delà des financements de l'État et de la Fédération camerounaise de football, du soutien des sponsors. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Les Camerounaises, Christophe, qui seront mardi à Kinshasa pour affronter les Congolaises au troisième tour, retour des qualifications pour les JO de Tokyo.
Merci beaucoup, Eric. Ça n'avait rien d'évident il y a deux semaines lorsque la Coupe du Monde de rugby a commencé au Japon. Mais ça y est, l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale sans avoir à jouer son destin sur le dernier match de poule. Les Bleus ont fait à peu près ce qu'il fallait pour éviter des sueurs froides en dominant la sélection du Pacifique, les Tonga, 23-21 à l'occasion de cette troisième rencontre qui n'aura pourtant toujours pas permis de savoir si leurs supporters peuvent vraiment faire confiance à cette équipe pour la suite. Notre envoyé spécial à Kumamoto, Cédric de Oliveira.
On savait le 15 de France imprévisible, c'est dans son ADN depuis quelques décennies. Mais avec ces Bleus dirigés par Jacques Brunel, c'est encore plus flagrant. Les voilà qualifiés pour les quarts de finale du Mondial alors que pas grand monde ne leur donnait du crédit. Et même si cette victoire face aux Tonga a été laborieuse, le sélectionneur se félicite de voir ses joueurs poursuivre leur aventure au Japon.
C'était notre premier objectif, il n'était pas facile. On était dans une poule compliquée, on avait des étapes à passer. Aujourd'hui, c'en était une différente. Avec difficulté, on l'a passée. Et donc, la première chose, c'est la qualification qui nous satisfait pleinement.
Il n'empêche, difficile de déterminer si cette équipe progresse. Certes, elle gagne, mais fait preuve aussi d'une fébrilité déconcertante. Sûre de son fait, en début de match, elle a éparpillé les Tonga pour inscrire deux essais de Vakatawa et Raka, avant de perdre le fil de la rencontre. Menant de 17 points, les Bleus ont peu à peu cédé du terrain, meurtri par la puissance des joueurs du Pacifique. Le troisième ligne, Charles Olivon, a souffert.
On le sait que c'est compliqué. Je pense qu'on avait dit que les Tongiens, ça allait être au-dessus des États-Unis. On ne s'est pas trompé. Et voilà, on est dans ce scénario-là. Et ça a piqué aujourd'hui. Vous avez vu les athlètes que c'était en face. Et ça, c'était un rouleau compresseur. Pour le compresseur qui faisait mal, qui était dur et voilà, on a dû s'employer pour les battre.
Les Français ont dû puiser dans leurs réserves et éviter un scénario catastrophe, copie conforme de ce qu'ils ont vécu face à l'Argentine et les États-Unis, encaissant même un essai en toute fin de match des Tongiens. Mais le trois quarts centre, Sofiane Guitoun, estime que les Bleus n'ont jamais douté.
Ils reviennent à la fin, tu étais à 23-21, mais ils reviennent à 23-21 à 80e quoi. Sinon, il y a 23-14.
Vous avez jamais eu peur?
Franchement, si je compare moi les deux matchs que j'ai joué, USA et Tonga, rien à voir. Les USA, franchement, j'ai eu un peu la chocotte. Je me dis, putain, merde, quand il y avait 12-6 à la 50e, 55e, je dis, putain, ce soir, j'ai eu moins peur que contre les USA. Il y a eu des choses bien meilleures. Après, on se trompe, je crois qu'on fait 15 fautes demain. On se précipite un peu trop parce qu'on est une jeune équipe, on a envie d'aller tout de suite devant. On est excité par ça, quoi. Mais c'est une bonne chose aussi.
Cette jeune équipe aura encore un match à disputer avant les quarts de finale. Ce sera face à un vieil ennemi, l'Angleterre. La machine à gagner d'Eddie Jones qui a remporté 3 victoires en 3 rencontres, elle aussi, mais avec la manière. Un test pour évaluer le véritable niveau des Bleus lors de cette Coupe du Monde. Cédric De Oliveira, Kumamoto, RFI.
Angleterre-France, alias le Crunch, ce sera samedi prochain à Yokohama. L'enjeu principal sera d'éviter de croiser en quart de finale la future meilleure équipe de la poule D, a priori l'Australie ou le Pays de Galles. Aucun suspense dans l'autre match du jour dans la poule D. La Nouvelle-Zélande a écrasé la Namibie 71-9 et reste en tête du classement devant l'Afrique du Sud et l'Italie. Encore 15 jours avant le coup d'envoi de la nouvelle saison régulière de NBA. Les franchises peaufinent leur préparation en multipliant les matchs amicaux. Et comme les dirigeants du plus grand championnat de basket au monde n'oublient jamais qu'il s'agit aussi de business, certains de ces duels vont de pair avec la politique expansionniste de la Ligue nord-américaine. Ainsi, après l'Afrique, c'est l'Inde qui intéresse de plus en plus le grand patron de la NBA, Adam Silver. Deux équipes, les Pacers d'Indiana et les Kings de Sacramento, ont disputé 2 rencontres de pré-saison ce week-end à Bombay. Pour en parler, on retrouve tout de suite notre correspondante en Inde, Carole Dietrich. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Est-ce que ces rencontres ont été un succès populaire ?
Oui, tout à fait. Vendredi et samedi soir, les tribunes du stade de Bombay, qui peut accueillir 5000 personnes, étaient bondées. Samedi, la plupart des spectateurs étaient des fans inconditionnels. Certains étaient même venus de loin pour voir s'affronter les Indiana Pacers et les Sacramento Kings. Quelques-uns d'entre eux avaient même fait le voyage depuis New Delhi, qui se situe quand même à plus de 1000 km de Bombay. Pourtant, les places n'étaient pas données. Le billet le moins cher pour le match de samedi s'élevait à 60 €, ce qui représente une somme en Inde. Des célébrités du monde de Bollywood étaient également présentes, comme l'ancienne Miss Monde Priyanka Chopra ou encore l'acteur Farhan Akhtar. Mais celui qui a créé la sensation, c'est la légende du basketball Larry Bird, présent dans les tribunes samedi soir. Les spectateurs indiens, qui sont généralement des mordus de cricket, n'ont pas eu le droit au traditionnel pom-pom girl, remplacé pour l'occasion par des danseurs de Bollywood.
En Inde, le basket part de très bas. Hein. Qu'est-ce qu'il représente dans un pays où, vous le disiez, on est surtout intéressé par le cricket ?
Alors, c'est vrai qu'ici, le cricket règne en maître. Le sport y est pratiqué à tous les coins de rue. Donc, dans ce contexte, le basket a du mal à se faire sa place. L'Inde ne compte que 4000 joueurs inscrits pour les tournois officiels. C'est peu dans un pays d'1,3 milliard d'habitants. Il n'existe pas non plus de grande star indienne du basketball. Il y a bien Satnam Singh, ce joueur de 2m18 qui avait été le premier indien à être sélectionné à la draft NBA en 2015. Mais il est très très loin de bénéficier de la popularité des joueurs de cricket, considérés ici comme des demi-dieux. Le basket reste en Inde un sport de niche à l'image élitiste. Il n'est pas certain que les 2 matchs de ce week-end parviennent à changer la donne. Même si le Premier ministre Narendra Modi a jugé sur Twitter que l'événement représentait un moment historique pour le sport en Inde et pour les relations entre l'Inde et les États-Unis. J'espère que les jeunes vont se mettre au basket, a-t-il également écrit. Même le président Donald Trump avait évoqué les premiers pas de la NBA en Inde lors d'un rassemblement de la diaspora indienne aux États-Unis le mois dernier.
Alors, des matchs de gala, Carole, c'est bien joli, mais maintenant, il s'agit d'essayer d'implanter durablement une culture basket dans ce pays. Comment la NBA agit-elle concrètement ?
Alors, l'Inde est dans le viseur de la NBA depuis plusieurs années déjà. Dès 2006, elle a commencé à organiser des visites de joueurs ou d'anciens joueurs en Inde. La NBA a également ouvert un centre d'entraînement pour les meilleurs espoirs indiens du basket dans la banlieue de New Delhi en 2017. Là-bas, elle accueille et entraîne une 20aine d'adolescents à temps plein. La NBA possède également un bureau à Bombay depuis 2011 et en plus de cela, elle a lancé un programme pour développer le sport au niveau local. Beaucoup estiment que faire du basket un sport populaire en Inde nécessitera l'émergence d'une superstar et c'est donc ce qu'essaie de faire la NBA. Pour le numéro 2 de l'organisation, Mark Tatum, l'Inde possède le même potentiel que la Chine où le basket est devenu le 2e sport national. Il espère que l'organisation de matchs de pré-saison à Bombay est un effet catalyseur. L'Inde, dont la population devrait dépasser celle de la Chine, représente l'un des marchés les plus importants pour la NBA. Les matchs de pré-saison pourraient donc devenir plus courants. Si la NBA est convaincue du potentiel du marché indien, elle doit néanmoins encore convaincre les Indiens.
Et ce sera sans doute un travail de très longue haleine. Merci Carole Dietrich en ligne de New Delhi. Mondial Sport baisse le rideau pour ce soir. Grand merci à Fabrice Violet pour la réalisation. Si vous avez manqué une partie de l'émission, rendez-vous dans quelques minutes pour la réécouter sur RFI.fr via le lien sur la page Facebook Mondial Sport RFI ou encore sur l'appli RFI Pure Radio. Vos commentaires sur l'émission sont toujours les bienvenus. Dans un instant, 24h en France avec Loïc Bussière. Très bonne soirée à tous.